France Inter.
Aujourd'hui, animaux et humains, histoire d'une séparation racontée par
Marie-Hélène Patoumatis, préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Monsieur et cher éléphant, vous vous demanderez sans doute en lisant cette lettre ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation, tel est bien sûr ce motif. Depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison, car un certain usage abstrait et inhumain de la raison, de la logique, se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. À tous ceux parmi nous qu'est cœur nos villes polluées et nos pensées plus polluées encore, votre colossale présence, votre survie, contre vents et marées, agissent comme un message rassurant. Tout n'est pas encore perdu. Le dernier espoir de liberté ne s'est pas encore complètement évanoui de cette terre et qui sait, si nous cessons de détruire les éléphants et les empêchons de disparaître, peut-être réussirons-nous également à protéger notre propre espèce contre nos entreprises d'extermination. Lettre à l'éléphant, Romain Gary, 1968. Bonjour Marie-Hélène Patoumatis.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Alary, Nous étions si proches, les relations humains animal de la préhistoire à nos jours, et vous ouvrez justement votre ouvrage avec une phrase extraite de cette lettre à l'éléphant de Romain Gary, l'éléphant le plus monumental des animaux terrestres. Il y a quand même un message d'espoir dans cette petite lettre. Hein.
Oui, en 68, ouais. Il l'a rédigé. Vous voyez, comme quoi cette espèce était déjà en danger, et elle est encore plus en danger actuellement. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut peut-être, plutôt que de regarder du côté du clonage de certaines espèces, dont le mammouth, plutôt de sauver les dernières espèces comme l'éléphant.
Ouais. Il nous parle de l'éléphant, Romain Gary, mais ça vaut pour toutes les autres espèces d'ailleurs sur Terre. Hein.
Tout à fait. Et les grosses comme les petites, parce qu'on aime beaucoup les grosses, les mammifères, c'est un degré de proximité plus important avec nous. Ouais. Mais il y a tous les autres, les invertébrés, il y a les insectes qui sont extrêmement importants par rapport aussi aux oiseaux. Enfin, donc c'est une perte de biodiversité générale.
Ouais. Dont nous faisons partie.
Exactement, il ne faut pas oublier.
De le rappeler. Et d'ailleurs, dans votre sous-titre, vous parlez des relations humain-animal. C'est toujours compliqué, finalement, de séparer les humains du monde animal, alors que nous appartenons effectivement au même monde. Rien ne devrait nous distinguer, finalement, des autres espèces.
Oui, mais je pense que c'est notre histoire. Dès l'Antiquité, on a commencé à faire des différenciations. Donc, je crois que c'est resté aussi dans les mémoires. C'est pour ça qu'on parle des animaux et des humains, alors qu'en fin de compte, nous sommes aussi des animaux. Actuellement, il y a des personnes qui utilisent le non-humain et l'humain, et même plus largement le vivant. C'est-à-dire que ça incorpore aussi les végétaux. Parce qu'évidemment, les végétaux, c'est encore pire, si j'ose dire, au niveau de leur disparition, les forêts, etc. Donc c'est vrai que c'est historique, et on a même nous, des fois, même si on veut faire attention à dire animal, enfin, à marquer cette différence.
Absolument. Le livre s'ouvre donc sur une question simple et vertigineuse. Pourquoi protéger donc des animaux devenus presque invisibles? On va en reparler dans nos vies quotidiennes, alors que justement le vivant s'effondre et que l'on parle d'une possible sixième extinction de masse. Pourquoi est-ce que vous, Marie-Hélène Patoumatis, vous vous êtes posé cette question en tant que préhistorienne?
C'est-à-dire que En fin de compte, je me suis aperçue, si vous voulez, au cours, maintenant ça fait quand même un certain nombre d'années, presque 40 ans que je travaille donc sur les comportements des humains et des animaux, sauf que ces humains sont très anciens, les Néandertaliens en particulier, mais aussi les premiers hommes modernes en Europe. Mm-hmm. Et je travaille sur ces ossements d'animaux, c'est mon cœur de métier, c'est de déterminer et de voir un peu, de mettre la chair autour des os, pour voir ces relations. Et je me suis aperçue que ces animaux et ces humains étaient très en lien. C'est-à-dire que je pense que sans ces animaux, je pense surtout là à toute l'Europe, cette période froide, où sans les animaux, je pense qu'on ne serait pas là.
Ça nous renvoie où d'ailleurs cette période exactement?
Alors là, 300 000 ans, on a beaucoup d'indications, on en a avant bien sûr, mais où j'ai beaucoup travaillé, c'est sur de 400 000 ans, on va dire, jusqu'à 10 000 ans pour prendre la fin du paléolithique. Mais ce qui est très intéressant quand on est peuple chasseur-cueilleur, de voir cette importance et cette relation qui était fondamentale pour leur vie. Je ne dis pas leur survie, il faut arrêter avec les préhistoriques vivaient, ne survivaient pas. Et donc, je me suis rendu compte de l'importance de ça, parce que ça dépasse la subsistance. C'est-à-dire que ça dépasse simplement de voir l'animal comme un ensemble de ressources alimentaires. Il y a aussi tout le non-alimentaire. Grâce aux animaux, on a pu se vêtir, on a fait des armes, des outils, en utilisant les bois des rennes, l'ivoire de mammouth, on a fait des parures, on a fait les os, on a fait des combustibles. Bref, l'animal était très important. Et ça a été même au-delà, puisqu'à un moment donné, c'est devenu bon à penser. Et que tous les mythes, les croyances et tout, donc, partent de ces animaux qu'on voit, bien sûr, dans tous les sites de grottes ornées, où on voit essentiellement que des animaux.
Ouais, donc il y a cette proximité dont vous parlez depuis la préhistoire. Donc au quotidien, ça veut dire, et c'est ce que vous voyez finalement dans les ossements, entre autres, on voit quoi, des rencontres, de la dépendance, de la cohabitation avec les animaux.
Oui, et je pense même, si vous voulez, que en travaillant sur les stratégies de chasse, parce que je me suis beaucoup intéressée de savoir comment est-ce qu'ils faisaient des choix sur des espèces, est-ce qu'ils tuaient plutôt les mâles et femelles, des groupes ou plutôt des animaux solitaires. Et en travaillant sur tout ça, je me suis aperçue que d'abord il y avait des stratégies qui tenaient compte de leur environnement. Ce qui est très important, c'est repartir de ce contexte qui maintenant on nous échappe. Ils vivent dans la nature, de la nature et dans la nature. Et donc il y a une relation des déjà particulière. Et on voit très bien que dans toute leur stratégie, si vous voulez, ils utilisent cet environnement qu'ils connaissent parfaitement. Et donc, il y a ce lien très, très fort. Ils sont presque... Ce sont des frères, des semblables, presque, si je prends des termes qui ont été utilisés par des ethnologues. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'animal, il n'y a pas tellement de différenciation. Et je pense que ça a dû être un moment aussi un peu difficile, justement, pour les tuer,
alors
les consommer.
Alors justement, oui, puisque vous parlez de la chasse, est-ce que c'est seulement une technique pour se nourrir ou est-ce que c'est une manière aussi de se situer dans ce vivant-là ?
C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut revoir dans ce contexte de nature, il y a aussi des autres prédateurs. L'homme, les humains, sont des prédateurs parmi d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont des concurrents. Donc on voit leur stratégie d'ailleurs. Alors il y a les lions des cavernes, les hyènes des cavernes, les loups. Et donc il y a ces concurrents. Et je pense qu'il y avait un rapport aussi en tant que prédateur. C'est-à-dire qu'ils se situent comme eux, dans le même écosystème, en tant que prédateurs. Donc ils doivent tuer pour se nourrir, pour se vêtir. Donc, sinon, ils ne peuvent pas vivre.
Ouais. Donc, il y a l'idée d'une crainte aussi, quand même, d'une peur de certains animaux, avec, dans le même temps, cette proximité qui est réelle.
Oui, parce qu'on a même, alors là, pour les périodes plus anciennes, on a même des cas où on a des traces où les humains ou les hominines, les premiers humains, ont été consommés. Moi, j'ai eu la chance de voir les sites en Afrique du Sud. On a beaucoup de sites où il y a des australopithèques et des paranthropes, où ce sont, en fin de compte, des repères de léopards. Parce que dans ce repère, il y a énormément de babouins, et puis il y a les australopithèques ou les paranthropes. Oui. Donc ça veut dire que, voilà, parce que c'était un gibier comme un autre. Et c'est vrai que cette relation, je pense, était important à un moment donné quand ils se sont vraiment mis à des chasseurs. Et nous, on le voit par la consommation très importante de viande dans toutes nos analyses biogéochimiques qu'on fait sur les ossements. Il y a une consommation importante. Il n'y a pas que les os qu'on a. C'est montré aussi par les analyses biogéochimiques sur les ossements des Néandertaliens ou des hommes fossiles. Et on voit très bien qu'une consommation importante. Et à ce moment-là, évidemment, ils se situent dans la chaîne, dans cet écosystème Où ils sont les prédateurs, les super prédateurs?
Ouais, alors évidemment, il y a les ossements, et puis, pardon, un petit peu plus tard, arrivent les grottes ornées, avec les dessins, l'art figuratif, et là, on voit aussi que les animaux représentent, ont une place particulière.
C'est ça qui est intéressant. C'est pas... D'abord, il faut resituer que cet art, notamment l'art pariétal, l'art des grottes, des parois, c'est 25 000 ans.
C'est très jeune.
Donc les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est toujours très compliqué d'interpréter ça. Mais il y a des choses très intéressantes, notamment de voir que ce sont essentiellement des animaux. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de végétaux. Mmh. En plus, c'est des animaux, plutôt des mammifères. On n'a pas beaucoup de poissons, on n'a pas d'oiseaux. Donc il y a vraiment c'est vraiment sélectionné, si je veux dire. Et surtout, j'ai eu la chance, quand je débutais, de travailler sur les ossements laissés par les artistes de Lascaux. Mmh. C'était que du renne. Que du renne. Et à Lascaux, c'est quoi? Ce sont les aurochs, ce sont des chevaux, ce sont, voilà, mais il n'y a quasiment pas de renne. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'était pas ce qu'on pensait au départ, un art de la chasse. C'est-à-dire qu'on va mettre l'animal sur la paroi, on va faire des incantations pour que la chasse soit favorable. Ça va au-delà. Donc je pense que très tôt, il y a eu un rapport à l'animal qui était très très fort et qui était vraiment déjà peut-être des mythes, les mythes plus anciens. Il y a des choses qui ont été développées, notamment par Jean-Loïc Lequellec, très intéressant sur ce mythe de la caverne originelle, la sortie des animaux et des humains. Donc je pense que voilà, on est plutôt dans ces relations donc très fortes avec l'animal. On est ensemble. Et beaucoup de contes et de légendes, moi j'ai vu chez les San, par exemple, quand j'étais au Calari avec eux, je me suis rendu compte que beaucoup de leurs contes, c'était du temps où les animaux parlaient. Donc voilà, c'est toujours l'animal, parce que c'est un frère, c'est un semblable.
Marinène Patou-Matisse, vous donnez aussi des exemples d'êtres hybrides, avec des figures mi-humaines, mi-animales. Ça compte aussi dans cette histoire?
Oui, je pense que... on peut. Alors, est-ce qu'il s'agit, par exemple, de sorcier qui se met un crâne de bison? Il y a toujours un débat, vous savez, c'est très compliqué. On n'a pas d'explication, toujours on doit interpréter avec ce qu'on connaît. Donc il y a ça, mais ça peut être aussi une espèce de métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples aussi qu'on des rites comme ça, un peu de transformation. Là, je repense au San. Moi, j'ai vu une danse que j'ai filmée où ils dansaient le koudou. Donc ils étaient en train de faire une danse où le danseur était un koudou, voilà. Et il y avait un danseur qui était un chasseur. Donc une espèce de mimétisme de la chasse, de cette relation particulière à ce moment-là, parce que l'esprit animal, moi je pense qu'on peut employer ce terme, l'esprit animal devait être quelque chose de très fort dans leur façon de voir le monde. Il y avait, chaque animal avait un esprit, et il y avait des animaux d'ailleurs qui étaient plus, avec un plus grand esprit, si je veux dire, qui avaient plus d'importance que d'autres.
On a l'impression que le mammouth a une place particulière aussi dans ce récit de la préhistoire, c'est le cas pour vous ou pas?
Oui, enfin, c'est vrai qu'il a beaucoup de succès, mais je pense que le Rox, on pourrait aussi dire, et puis les grands félins de Chauvet, c'est quand même impressionnant.
Mais il y a une culture du mammouth quand même.
Mais il y a une culture du mammouth.
Ouais, c'est ça.
Et surtout, comme je le dis souvent, moi j'ai beaucoup travaillé en Europe centrale et orientale, et là on a beaucoup plus de sites à mammouth, hein, plus qu'en Europe. On a vraiment des campements, on a même des cabanes en os de mammouth, etc. Et là il y a une vraie culture du mammouth, où non seulement on utilise tous du mammouth, mais aussi il y a beaucoup de représentations, notamment dans l'art mobilier. Donc vraiment quelque chose se rapporte très très fort à ce... Ben, faut dire que c'est tellement impressionnant, c'est une force tranquille. Voilà, le mammouth, c'est pour ça que dans les films et tout, voilà, c'est la force tranquille, il n'a pas besoin de montrer ses muscles pour dire que...
Il n'y a pas de message subliminal avant les élections, hein, pas du tout.
Oh, non.
On parle bien du mammouth.
Oui.
Marilène Patou-Matisse, on va se retrouver dans un instant. Donc on voit bien là, hein, ce que vous nous décrivez à la préhistoire, c'est cette proximité qui se confond presque, hein, entre les humains et les animaux. Et puis on va voir qu'il y a quelques frontières qui vont commencer à s'ériger avec vous dans un instant, avec des tournants majeurs dans ces relations entre humains et animaux. Nous étions si proches, vous signez cet ouvrage aux éditions Alary.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
J'ai pas des chiens dressés, j'aime pas ça, parce que quand on dit compagnon, ça veut pas dire esclave. Quand j'ai un ami qui est chez moi, je claque pas des doigts pour qu'il aille me chercher mes cigarettes. Je vois pas pourquoi le chien m'obéirait aux doigts. Il y a des gens qui obéissent, m'emmerdent dans la vie et les animaux aussi. Et mes chiens font ce qu'ils veulent, comme moi j'aime bien dans la vie faire ce que je veux.
Voilà, c'est Audiard, 1978, dans 30 millions d'amis sur TF1, Archives de l'INA. Marilène Patoumatis, vous qui êtes notre invitée avec cet ouvrage, Nous étions si proches, relations humain-animal de la préhistoire à nos jours. Alors c'est intéressant ce qu'il raconte Audiard, parce qu'il veut presque nous faire croire que ces chiens étaient des êtres absolument libres, mais ils ont quand même passé la domestication. Hein.
Bien sûr.
Et ça, c'est une étape très importante, justement, dans nos relations.
Oui, c'est vraiment un changement. C'est un changement parce que, si vous voulez, de prédateur, on va devenir un producteur. Et des animaux sauvages, en tout cas certaines espèces, vont être domestiquées. Donc ça veut dire quoi, un animal domestique? Ça veut dire qu'il est créé par l'homme, quelque part.
Donc c'est la première rupture, finalement, très identifiable.
C'est une rupture importante.
Ouais. Alors, on la situe quand, alors? Vraiment au moment de la sédentarisation?
Alors, exactement. D'abord la sédentarisation. Tout ça se passe surtout en Anatolie, on va dire. Et donc, il y a à peu près 14 000 ans au départ, il y a la sédentarisation. Ensuite, la domestication des plantes et des animaux, parce que ça va ensemble. Et puis après, ils vont arriver, par exemple, en Europe. Alors, par les Balkans, c'est une des hypothèses. Par les Balkans, il y a à peu près 9000 ans, et puis vont remplacer petit à petit l'économie de prédation par cette économie donc de production, c'est-à-dire élevage et agriculture. Et ça, ça change complètement, parce que ces animaux, en fin de compte, sans les humains, ils ne seraient pas là, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une relation, donc une espèce de on est presque une divinité, puisqu'on commence à faire des animaux qui n'existaient pas, on les transforme. Mais il faut rappeler que au paléolithique supérieur, alors certains disent il y a déjà 36 000 ans, au moment de Chauvet, on a domestiqué le loup. C'est-à-dire que le premier animal domestique, c'est le loup qui a donné le chien. Mmh. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir ce compagnonnage.
C'est ça.
De cet animal, et surtout de voir ce que j'ai appelé dans mon livre, j'ai fait un chapitre sur cet ennemi soi-disant héréditaire, le loup, mais qui en fin de compte a donné le meilleur ami de l'homme, comme on le dit très souvent, ou le plus proche.
En s'approchant donc des campements, c'est ça?
Voilà, c'est ça, parce qu'en fin de compte, ils sont commensaux, c'est-à-dire qu'ils aiment les os, ils aiment les déchets, les loups, et donc ils rôdaient autour des campements. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses, mais c'est une des hypothèses, prendre des louveteaux, ça peut être une des hypothèses de la domestication. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des traces dans ces périodes où on a peut-être la preuve qu'il y avait une utilisation, en tout cas dans certaines de ces sociétés du paléolithique supérieur, du chien, oui, comme auxiliaire de chasse, parce qu'il y a une technique pour des canidés, des loups, pour attraper les pattes des rennes, par exemple, si je prends là pour le paléolithique. On a ces traces, nous, sur des phalanges de rennes, etc. Donc on pense qu'il y avait peut-être cette utilisation au départ en tant qu'auxiliaire, et peut-être après les campements,
ouais,
etc.
C'est ça.
Mais en tout cas, il ne faut pas l'oublier, donc c'est très ancien.
Ouais. Donc c'est avant le néolithique, donc.
Bien sûr, c'est
bien
pour
avant
ça que
la sédentarisation.
C'est avant. Et c'est après, c'est ce qu'on va appeler tous ces animaux de rente, hein, c'est-à-dire ceux qui vont être utilisés pour les viandes, pour la laine, pour, enfin, selon les espèces. Donc, mais là, c'est quand même intéressant de noter le chien, le loup, c'est l'ennemi héréditaire, mais en réalité, c'est quand même lui qui a donné ce compagnon.
Ouais. Quand on est, justement, quand on devient un animal domestique, qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport, de la proximité entre les humains, justement, et ces bêtes, dans les gestes, d'ailleurs, du quotidien, vous l'évoquez, ça?
Ben c'est très important, parce qu'en fin de compte, c'est un élevage de proximité. C'est-à-dire que les animaux, ils sont dans le village, ils sont tout proches, ils sont même dans les maisons avec les humains. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, là, une vraie proximité, et qui a d'ailleurs, au départ, été assez, assez néfaste aux humains, puisqu'il y a eu des maladies à cause de cette proximité.
Il y en a toujours, d'ailleurs.
Il y en a toujours. Mmh. Et donc, là, ça a été quelque chose qu'on voit, très bien, enfin, mes collègues qui travaillent sur ces périodes. Et là, c'est intéressant de voir qu'ils vont apporter du bien, si j'ose dire, des choses positives, mais aussi ces maladies. Et donc, ils vont être en contact. Donc, toujours cette proximité, parce que quand j'ai intitulé « Nous étions si proches », je parle surtout de la proximité spatiale. Affectif, on en reparlera, c'est autre chose. Mais là, on a vraiment ces cartes. Et là, on est vraiment dans ce type d'élevage qui a perduré, d'ailleurs, dans certaines régions, dans nos campagnes, où il y avait encore cette proximité des éleveurs, il y en a encore actuellement, avec des petits élevages, avec ces animaux. Donc, c'est une relation aussi quand même très forte. On va donner des noms à ces animaux. Donc voilà, ils rentrent dans cette grande famille, ouais. Si j'ose dire.
Est-ce que tout ça va nous rendre moins dépendants de la nature ou plus interdépendants des animaux, en fait ?
Ben, ça, c'est la vraie question, parce que c'est toujours, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on a inventé, ou qu'on a, il y a toujours un peu les revers. C'est vrai que quand on regarde, quand on fait la paléopathologie de la plupart des fossiles du paléolithique, de ce peuple chasseur-cueilleur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grosses pathologies qui montraient que des carences énormes au niveau de l'alimentation, à part le calcium de certains moments, alors qu'on va avoir des grosses famines après. Parce que c'est, l'agriculture, ça dépend du climat, ça dépend du temps. Donc, et ça joue, s'il n'y a pas de céréales pour nourrir les bêtes ou d'autres, les bêtes aussi souffrent. Donc, c'est pour ça que c'est, là aussi, cette dépendance à ce style de production va entraîner des famines, va entraîner des disettes. Donc, c'est pour ça qu'il y a du bien et du moins bien. Mais ça vient surtout changer, évidemment, la structure sociale et les rapports à ces animaux. Mais il y a la chasse qui continue, il ne faut pas oublier. La chasse vivrière, parce que là, on parle de chasse vivrière, elle perdure. Ce n'est pas parce qu'on a des animaux domestiques qu'on va arrêter de chasser. Et chez nous, par exemple, on chasse le cerf, le sanglier, etc. Et ça va durer même en protohistoire.
On va avancer un petit peu dans le temps, puisque vous couvrez une large époque, de la préhistoire à aujourd'hui, Marie-Hélène Patomatis. On va se rendre au XVIIe siècle avec un extrait pour en parler de la pièce de théâtre La vie de Galilée de Bertolt Brecht. C'est au Théâtre Lucernaire en 2013 et on va entendre dans cet extrait un prêtre qui n'est pas franchement aligné sur la pensée de Galilée.
Un jour viendra où ils diront il n'y a plus l'homme et la bête. L'homme lui-même est une bête. Il n'y a que des bêtes.
Monseigneur,
silence, mon insolent.
Je ne suis pas n'importe quel être sur n'importe quel petit astre qui tourne en rond pendant quelque temps n'importe où. Je marche d'un pas assuré sur une terre ferme. Elle est fixe, elle est le centre de l'univers et je suis au centre. Et l'œil du Créateur est fixé sur moi et sur moi seul. Ainsi visiblement et irréfutablement tout dépend de moi, l'homme. Fruit de l'effort divin, la créature en son milieu, l'image de Dieu. Impérissable et...
Voilà un prêtre en colère à cause de Galilée qui a décentré à la fois la place de la Terre et donc de l'humain dans l'univers. Et pour beaucoup à cette époque, c'est aussi fou que d'affirmer que justement les hommes sont aussi des bêtes comme les autres.
Ah ben complètement. On va avoir beaucoup, mais ce débat il commence déjà à l'Antiquité. Ce qui est très intéressant quand je me suis plongée dans ces périodes-là, c'est de voir qu'il y a une grande période pré-socratique. Alors avec le chef de file que tout le monde connaît, qui s'appelle Pythagore, le végétarien, qui a une position par rapport à l'animal. Voilà, on a une âme, on est très proche, etc. Animal humain, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas le mot animal de toute façon en grec. Et puis après, il va y avoir donc Socrate, mais surtout avec Aristote. Et là déjà avec Aristote, avec ses classifications et tout, il commence déjà un peu à discuter est-ce qu'il y a une âme. Oui, il y a une âme, mais c'est pas la même. Il y a l'âme humaine et il y a l'âme chez les animaux. Donc tout ça commence déjà là. Et petit à petit, on va voir ce côté-là. Et avec, bien sûr, le 17e et surtout avec Descartes, là, on va complètement changer de la façon de voir ce rapport à l'animal.
L'animal-machine.
Hein. Exactement.
Donc là, c'est vraiment aussi une conception qui change totalement.
Qui change beaucoup. Mais il y a quand même des contradicteurs. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à chaque période, on a les deux. Mais malheureusement, il y a plus qui sont pour exploiter les animaux, mais il y a toujours des résistants quand même, et là c'est Gassendi qui va faire tenir tête à Descartes en lui disant oui mais nous aussi comme on est animal donc on est une machine et donc il y a toujours ces résistants et surtout ce qui va amener à percevoir différemment c'est de se dire ces animaux on discute s'ils sont aussi intelligents s'ils peuvent faire les mêmes choses que nous avec Descartes et tout et lui il va dire non donc voilà et c'est pas des humains rien parce qu'ils savent, ils savent rien faire. Enfin, ils n'ont pas de moralité. Ils ont pas... Et donc, c'est ça qui, bien sûr, va inférioriser les animaux.
Et pourtant, il y a des procès, vous le rappelez. Ça, c'est un exemple assez célèbre au Moyen-Âge, le procès des cochons, par exemple.
Oui, parce qu'au Moyen-Âge, il y a encore beaucoup de textes qui, par exemple, je pense à Élien, beaucoup de textes qui donnent des vertus et des qualités aux animaux. Ils sont très anthropisés. Et donc, en fin de compte, voilà, il y a des animaux qui sont bien, puis les animaux, c'est pas bien, la hyène, la pauvre hyène.
Donc, on les humanise aussi.
On les humanise totalement. Ouais. Ouais. Et donc, ils vont, là aussi, subir, s'ils se comportent mal, eh ben, ils doivent aller en procès, et s'ils sont coupables, eh ben, ils doivent être tués.
Ouais. Vous employez cette idée, ce terme de désanimalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Hélène Platou-Mathis ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire une humanisation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, petit à petit aussi, on en fait plus des animaux, il n'y a plus l'altérité. C'est-à-dire qu'on les transforme, on ne veut plus qu'ils soient animaux. Et puis pour nous aussi, c'est surtout par rapport à nous, on veut enlever ce côté d'animalité, le fait qu'on a ça en nous, que nous sommes des mammifères, des primates. Donc il y a un très grand débat, notamment bien sûr au 19e siècle. Mais déjà, ça commence avec la classification de Linné. C'est quand même la première, enfin parmi les premières à la fin du 18e, on va avoir des classifications qui vont dire que le règne animal est plus fort, est au-dessus du règne végétal, et que dans ce règne animal, eh ben, on va des inférieurs aux supérieurs, et cette hiérarchisation, ça va engendrer beaucoup de maux.
Ce lien, il est cassé, c'est aussi l'idée de votre ouvrage. On va voir évidemment comment il s'exprime aujourd'hui avec vous, et puis on répondra avec les messages qui arrivent aux questions des auditeurs et des auditrices. Vous nous rejoignez sur la page de La Terre au Carré, franceinter.fr. Marie-Hélène Platou-Mathis, notre invitée.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Bien sûr, nous sommes des animaux, c'est pas la peine d'insister sur ce point, mais le destin des animaux est tissé à notre destin. Et ça, nous le comprenons avec le fait qu'il y a de la contagion interspécifique. Que nous tombons malades gravement de maladies contractées à partir d'animaux. On peut dire aussi que dans quelques temps, on nous greffera des cœurs de porc. Je ne sais pas comment passer, ça ne me choque pas du tout. Je serais plutôt contente d'avoir un cœur de porc si je ne savais pas qu'il y a des souffrances abominables du porc qui ont précédé cette adaptation génétique du porc à notre espèce.
La voix de la philosophe Elisabeth de Fontenay, c'était dans l'émission du jour au lendemain d'Alain Weinstein sur France Culture en 2008. Marie-Hélène Patou-Mathis, vous qui êtes préhistorienne, avec cet ouvrage Nous étions si proches chez Alary, notre destin, disait Elisabeth de Fontenay, est tissé à celui des animaux.
Oui, c'est un long parcours. Hein. J'appelle ça compagnonnage très important, très long, avec des moments plus difficiles pour les animaux que d'autres moments, mais c'est un compagnonnage. Donc on est très liés aux animaux.
Dans les moments de rupture dont vous parlez justement, ou d'accélération, en tout cas, il y a le 19e siècle avec l'industrialisation et l'urbanisation qui transforment aussi beaucoup la place des animaux dans la vie des humains.
Tout à fait, parce que ces animaux, si au départ, c'est surtout des animaux pour la viande, ensuite ça va être pour la laine, parce que les premiers animaux domestiques, ce sont les moutons, les chèvres, on va avoir les porcs, on va avoir après les bovins, donc tout ça, ça va être surtout pour la viande, le lait. Après, bien sûr, il va y avoir très vite la laine. Donc, on a une utilisation aussi à un moment donné. Alors là, de situer exactement à partir de quelle date, c'est très difficile, mais en tout cas, à la fin de l'unité, on a aussi l'utilisation pour le labour, pour tirer. Et d'ailleurs, même peut-être pour revenir aux chiens, peut-être que même dès le paléo, ils tiraient peut-être aussi une espèce de hamac, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc, il y a une utilisation de tracteurs, au sens tracté.
Pour donner la force.
Pour donner la force, de portage. Les animaux vont porter aussi. Donc, ils sont extrêmement utilisés pour les labours, par exemple. Et puis, à un moment donné, même les chevaux. Et donc, il y a vraiment cette utilisation de la force motrice de ces animaux. Parce qu'on voit souvent la laine, mais il y a aussi cette force motrice. Est-ce qu'au 19e siècle, ça va changer, puisqu'on va avoir là les vraies machines. Donc, ils vont petit à petit remplacer, parce qu'elles sont plus efficaces, on ne les nourrit pas, elles ne sont jamais fatiguées, etc. Donc, il va y avoir ce remplacement. petit à petit. Mais il y en a encore des choses très, très difficiles, comme par exemple les chevaux dans les mines. Voilà, il y a des choses quand même très dures. Quand on lit, moi j'ai lu des passages, il y a un très beau livre d'Éric Barrettet sur ça.
Ouais. On faisait descendre les chevaux.
Et puis ils mouraient. Puis à un moment donné, au cours du 19e, justement, la question qui était déjà un peu soulevée par les philosophes au 18e siècle, philosophes des Lumières, il y a ces questions, on ne va plus dire est-ce qu'ils sont proches de nous intellectuellement au niveau des qualités ou ceci, cela. Non, là on va s'interroger sur est-ce qu'ils souffrent. Et ça, ça va devenir très fort. Le bien-être n'est pas loin derrière au XXe siècle. Mais là, on dit,
comment ça se manifeste ?
Alors, ça se manifeste parce qu'il y a des gens qui ne supportent plus de voir ces animaux battus, etc. Donc, on a des procès, enfin, des relevés de gens qui disent, mais ça suffit. On va enlever tout ce qui était visible au niveau de l'abattage des animaux en ville, tout ça, dans les rues. Non, on met tout
de
la...
Hors des murs de la ville. Hein.
Hors des murs. On ne veut plus voir ça couler le sang. Ça. Bon, il y a aussi pour l'hygiène, il faut quand même... se cacher derrière tout ça, il y a quand même aussi ceux qui disent, bon, au niveau hygiène, c'est pas top. Donc, il y a tout cette chose, parce que la question, elle est importante, là. On dit plus, peu importe s'il a une autre qualité, est-ce qu'il souffre ? Et s'il souffre, ça va pas. Donc, on va avoir les lois Gramont et tout, on va avoir la SPA qui va se faire, tout ça se fait au 19e. Donc, il y a vraiment, là aussi, une réaction à ces souffrances. Il y a les premiers questionnements importants sur ça. Ouais. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que si l'animal souffre, ben là, il faut arrêter de l'exploiter d'une façon criminelle, si j'ose dire, dans le sens de les battre. Ça va être marqué. Hein, la loi Gramont, on ne doit pas faire souffrir. On peut utiliser, mais pas faire souffrir. Ouais.
Au milieu du 19e, il y a quand même une figure, celle de Charles Darwin, hein, qui a aussi complètement bouleversé le rapport au monde animal.
Complètement, parce que ce qui va se passer avec Darwin, c'est qu'on va, d'un seul coup, en 1871, il va nous annoncer, dans son livre sur la descente de l'homme, il va nous annoncer que nous avons un ancêtre commun. Mmh. Alors évidemment, ça va être très difficile à accepter, notamment par toute la chrétienté. Ouais. Là, tout le monde s'est énervé, parce que là, c'est très fort. Parce qu'on déjà, on avait un débat, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y avait déjà un débat avec Buffon, pour s'aligner, tout ça, pour savoir si on faisait l'ordre des primates, et si on mettait l'homme dans l'ordre des primates, c'est-à-dire avec les autres singes, ou pas, etc. Donc, déjà, il y avait eu ça, et là, hein, il remet une couche, je veux dire, en disant, non, attendez, non seulement on est dans l'ordre des primates, mais en plus, on a... Et évidemment, ça change aussi le regard. C'est-à-dire que si on a ces points communs avec eux, c'est qu'il y a quand même une part de nous, de cette fameuse animalité dont on parle, qui existe, quoi.
Marilène Patou-Matisse, en 2017, des scientifiques ont alerté sur une possible sixième extinction de masse. C'était la première fois qu'on en entendait parler, qui était susceptible d'entraîner, donc avant la fin du siècle, la disparition de très nombreuses formes vivantes. Cette idée, elle revient aussi beaucoup dans votre ouvrage. Cette perspective, qu'est-ce qu'elle raconte, elle aussi, finalement, de notre rapport aux autres animaux ?
Moi, je pense que ce qu'elle veut dire surtout, à mon avis, et qu'on n'a peut-être pas insisté, c'est qu'on a perdu la notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des animaux, on parlait tout à l'heure, les insectes disparaissent, on ne se rend pas compte. Mmh. Un écosystème, ça marche ensemble, et nous, on est dedans. Hein. Moi, je n'exclus pas, on est dans cette nature, dans cet écosystème. Et donc, voilà, si on déplace d'un côté, si on joue, y a des choses qui disparaissent, des espèces qui disparaissent, tout ça va jouer sur les autres espèces. Donc, tout ça, ça fait un espèce de chaos. Et évidemment, ça entraîne beaucoup de pertes. Alors qu'on se dit, mais oui, mais moi, je ne veux pas tuer les singes. Par exemple, on va me dire, je ne veux pas tuer... Mais oui, mais si on déforeste. C'est-à-dire que... Pour moi, le drame de cette extinction, pourquoi elle est si prégnante, c'est parce que il y a la démographie, on est très nombreux, et donc l'urbanisation. Et cette urbanisation, elle prend beaucoup de terrain. Elle prend beaucoup de terrain à la fois sur le sauvage, parce que là, on va déforester, etc. Mais aussi sur le domestique. Mmh. Parce qu'en fin de compte, actuellement, il y a des terrains où il y avait de l'agriculture, je parle même là, autour de nous, en Île-de-France. Et qu'est-ce qu'on va mettre ? Des data centers. Donc l'urbanisation, ça repousse à la fois du sauvage et à la fois aussi même du domestique. Donc on s'éloigne, ce fameux éloignement, donc on ne voit plus les animaux.
Et il y a une forme d'insensibilité aussi dont vous parlez. On ne se sent pas concerné, même lorsqu'on sait pourtant que ça s'effondre autour de nous.
Oui, parce que on est un petit peu dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir faire souffrir les animaux. Beaucoup, enfin, je pense la majorité des gens, franchement, son compte, mais ça ne nous empêche pas aussi de laisser faire de la maltraitance, notamment avec ces fameuses fermes-usines, qui se traduisent comment ? Ben, qui se traduisent avec des steaks dans certaines... voilà, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire de publicité, mais où on vous... Des burgers. Là, c'est la mauvaise viande. Enfin, on le sait quand même, même si on dit mais non. Donc ça, ça vient de quel endroit ? Ben, des animaux qui souffrent. Et malgré ça, on le sait, et les mêmes personnes qui sont sincères disent ah ben non, je ne veux pas faire souffrir, mais quelque part, oui.
Ça serait quoi un avenir en commun avec les animaux ?
Alors, moi, je pense que, je pense que là, il y aurait à repenser, peut-être. Moi, je suis pour les petites structures, les petits. et je pense, voilà, il faudrait.
Parler des fermes.
Voilà, et remettre peut-être. Ben, mettre je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, le fameux préfet qui voulait mettre les villes à la campagne. Et ben, moi, je dis, remettons des campagnes dans les villes. Je pense que ça, je le dis en souriant, évidemment. Mais je pense qu'il faut surtout, on est à la croisée des chemins et savoir si on veut continuer. Et parce que là, ce qui nous attend quand même, c'est une progression, une accélération avec toute la technologie, la génétique. Donc là, il faut vraiment, je pense, penser si on veut encore être avec, avec eux, oui, plus proche d'eux en tout cas.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Un message de Daniel qui nous dit « Sauf erreur de ma part, à part quelques empreintes de la main, la représentation de l'être humain est presque totalement absente de l'art pariétal. N'est-ce pas là le signe en quelque sorte de la séparation dès l'origine entre les êtres humains et les autres animaux ?»
Oui, c'est vrai qu'on peut se questionner sur ça. C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, il y a cette séparation ? Mais quand on regarde dans l'art, il y a quand même aussi beaucoup de figurations. Il y a les mains, mais il y a aussi tous les... Je prends bien sûr le féminin. Il y a beaucoup de vulves, notamment. Oui. Il y a beaucoup de tracés, quand même. Voilà, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'humains, mais il y en a quand même qui sont présents.
Dans les petites sculptures aussi, hein, les Vénus,
bien
par
sûr.
Exemple.
Et surtout, j'allais le dire, dans tout l'art mobilier, on a des représentations, et notamment... des représentations féminines. Donc l'humain est quand même présent.
Fabienne demande, est-ce que certains animaux ont été diabolisés ou détestés ?
Au cours de l'histoire ?
Ouais.
Ah oui. Ah oui, au cours de l'histoire, oui. Par exemple, dans l'Antiquité, les hyènes, c'était... Voilà, parce qu'en plus, on disait qu'elles étaient hermaphrodites, etc. Ouais. Elles avaient le mauvais œil, enfin...
Il y en a eu un paquet d'animaux,
voilà,
hein, comme
ça. Voilà, il y en a eu un paquet. Mais souvent, il y en a qui ont... À la fois, le lion, il est des fois porté au nu, mais des fois, au contraire, il est rejeté, donc...
Angèle demande si la domination que les humains exercent sur les animaux a un lien avec la domination des femmes ou la domination de la Terre.
Oui, je dis oui. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ça. Notamment celles qui pensent que le fait d'avoir hiérarchisé les espèces, c'est-à-dire voilà, d'avoir fait cette hiérarchie des inférieurs aux supérieurs, a entraîné la hiérarchisation des humains, avec notamment au 19e le racialisme, et puis au sein de ça, on a aussi, bien sûr, infériorisé les femmes par rapport aux hommes. Et tout ça fait le même processus de cette fameuse hiérarchisation sur des critères plus ou moins scientifiques, pseudo-scientifiques souvent. Et donc ça, c'est vrai que c'est une espèce de domination qui s'est faite des animaux jusqu'aux femmes.
Laure demande quels sont les animaux qui ont été domestiqués après le loup, alors, puisque vous disiez que c'était probablement l'un des premiers.
Après, c'est surtout, bon, il y a les bouquetins, les mouflons, enfin, toutes les chèvres sauvages. Donc, on donne les chèvres, les moutons, il y avait à partir du mouflon, ouais. Voilà, il y a eu aussi les cochons à partir des sangliers, donc voilà, les bœufs, les bœufs, pardon, à partir des aurochs, donc il y a eu toute une série des animaux comme ça, et ça s'est passé, c'est intéressant, entre il y a 11 et 7000 ans, c'est assez proche.
Et Alain, justement, demande, est-ce que le loup, avant de devenir un chien, était chassé pour sa viande, au même titre que les cerfs, les aurochs et les autres animaux de la préhistoire,
hein ? Alors ça, les prédateurs, c'est ça qui est intéressant. Il y a un rapport tout à fait particulier des chasseurs de la préhistoire par rapport aux prédateurs. Il y a très peu de chasse. Et quand il y a la chasse, c'est surtout pour les fourrures. C'est-à-dire qu'ils vont chasser essentiellement les loups, les renards et les ours bruns, surtout pour les fourrures.
Et puis enfin, Laurence demande si les animaux de compagnie risquent d'être totalement remplacés par des robots.
Alors, justement, on a pas encore parlé de nos animaux familiers, ouais. Qui sont tellement familiers que maintenant, c'est des humains à quatre pattes. Donc, on a enlevé un peu de ce côté sauvage. Et c'est vrai que ces animaux familiers, en fin de compte, on a déjà pas mal de preuves de leur transformation, non seulement en robots, mais aussi dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, surtout en Asie. En Asie, il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux virtuels, des animaux de compagnie familiers virtuels.
Merci beaucoup, Marilène Patou-Matisse.
Merci.
Je renvoie sur votre ouvrage « Nous étions si proches, les relations humains-animales de la préhistoire à nos jours ». Ça vient de sortir aux éditions Alary. Merci de votre venue à ce micro. Merci également à Éléonore Thévenot qui a préparé aujourd'hui ce dossier, Nicolas Delmas à la technique, Théo de Labaudière à la vidéo et Amazir Amadaïn Guest qui réalisait cette émission.